J'ai découvert qu'il y avait une présence des pré-situationnistes à Aubervilliers. Et comme j'habite à Aubervilliers depuis 30 ans, donc c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Donc j'avais déjà organisé un événement en 2010. Et là, j'ai décidé de reprendre cet événement, mais en le nourrissant de recherches. Donc j'ai fait pas mal de recherches et j'ai rencontré Jacques Deval qui s'occupe des promenades urbaines. Et puis il m'a proposé de monter ce projet avec lui. Et pour moi, c'était une bonne occasion de tester, de raconter tout cela et puis de tester un format de promenade qui doit s'améliorer ou peut-être se centrer plus sur un sujet. Bien entendu, les gens qui ne connaissent pas les situationnistes, il faut qu'il y ait tout un travail autour pour faire connaître avant de faire la promenade ou pendant la promenade. En gros, ce qui est intéressant pour la ville d'Aubervilliers, c'est que c'était des jeunes qui avaient des idées idéalistes, disons, de changer le monde avec un engagement pour les peuples, les guerres anti-coloniales, qui allaient dans les bidonvilles, qui rencontraient les immigrés, qui s'intéressaient, qui étaient des fervents des républicains espagnols. Donc, des jeunes qui étaient vraiment pleins de passion, pleins de vie, pleins d'insolence, qui représentaient un peu une avant-garde. Enfin, c'est un terme qu'on n'utilise plus maintenant dans l'art. Ils étaient encore dans l'utopie d'un monde meilleur, où il n'y aurait plus d'opposition de classe, etc. Voilà. Après, ce qu'on peut dire pour résumer, les situationnistes, c'est un ensemble de théoriciens, artistes, plasticiens, poètes, et puis des gens autour aussi. C'était mené par Guy Debord, qui avait un grand sens de la synthèse et qui savait exprimer un petit peu tout ce qu'il entendait, tout ce qu'il voyait. Et c'était un mouvement qui se voulait toujours à petite dimension, c'est-à-dire avec quelques personnes. Et dès qu'il grossissait, dès qu'il dépassait 10 personnes, il explosait beaucoup par l'action de Guy Debord, qui aimait bien rester petit. Mais pour moi, c'est un mouvement qui a été très important en mai 68 et après, et qui a même d'ailleurs été complètement récupéré par la société de consommation, entre guillemets, et qui s'est propagé de façon virale. C'est-à-dire que même quand les gens étaient exclus du petit groupe, du petit noyau, ils recréaient un autre mouvement, et donc ça a créé comme ça un archipel de contestation très libertaire, qui réfléchissait, rêvait à une autre façon de vivre le monde, la réalité. La dérive, ils appellent ça plutôt la dérive psychogéographique. Donc c'est une façon de... ce qui est important, ce qui est mis en avant, c'est qu'il faut faire, et c'est même écrit en majuscule, Donc c'est-à-dire être dans l'action, dans le présent. Donc quand on fait quelque chose, quand on part, on marche. Et après, quand on marche, on commence à être distrait par des choses, attiré, on s'arrête, on vit quelque chose, après on s'en va, on vit autre chose, etc. Enfin, façon de rebondir d'un événement à un autre événement, sans avoir programmé, tiens, à telle heure je vais faire ça, à telle heure je vais faire ça, je prends le métro. Tu sais, à l'époque, on disait métro, boulot, dodo. Donc la dérive, c'était justement une façon de se laisser aller à faire les choses qu'on désirait faire dans l'instant. Par exemple, Michèle Bernstein, qui était la première femme de Guy Debord, elle m'a raconté, elle m'a dit qu'ils partaient à 8h du soir de Saint-Germain-des-Prés et ils arrivaient à 11h du soir à Aubervilliers. Ils mettaient 3 heures en marchant. Mais à l'époque, tout le monde marchait. Elle, par exemple, prenait son vélo et elle partait à l'île de Ré en vélo pour partir en vacances. Donc il faut aussi s'imaginer qu'à cette époque-là, l'effort physique, c'était tout à fait normal. On se déplaçait comme ça. On n'était pas en train de calculer son truc, quoi.